Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse sur Radio G. Cette semaine, votre quotidienne culturelle et locale se transforme. À l'occasion du festival Premier Plan, nous sortons de nos studios et nous serons au cœur du festival. Vous entendez peut-être déjà un petit peu l'ambiance du centre des congrès pour vous permettre de découvrir la programmation, les acteurs et les artistes qui font Premier Plan. Si jamais vous avez la chance de découvrir ce festival avec cette émission, j'en doute mais on ne sait jamais, je vous informe qu'il s'agit d'un festival de cinéma. On y trouve une compétition avec des premiers films de réalisateurs et réalisatrices européens, une compétition de courts-métrages, de longs-métrages, mais aussi de nombreuses rétrospectives, rencontres, conférences et ateliers autour du cinéma. Très heureuse de réaliser cette émission avec Margot et Anouk. Et je laisse Anouk vous présenter le programme de ce soir. Bonsoir Anouk.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous et à toutes. Donc, dans cette émission, nous parlerons des ateliers d'animation pour les enfants. Donc ce sera la première partie. Donc, on a échangé avec Emmanuelle Gibault, qui est médiatrice cinéma jeune public au festival Premier Plan. Ensuite, on rencontrera Adrien Mérigeau, qui est réalisateur du court-métrage d'animation Genus Loki. Mais avant ça, on va commencer par interviewer Christophe Codéran, qui est coordinateur régional du dispositif lycéen et apprenti au cinéma des Pays de la Loire. Et je donne maintenant le micro à Margot pour cet entretien.
Bonjour Christophe Codéran, on est vraiment ravis de vous recevoir à Radio G.
Bonjour.
Pour nous parler de cette conférence qui aura lieu mercredi au Centre des Congrès et qui porte sur l'éducation à l'image. Le titre exact, c'est « L'éducation à l'image fait son cinéma ». Et l'idée, c'est qu'en partenariat avec le Centre national du cinéma, vous allez évoquer, échanger avec la communauté éducative sur les différents dispositifs d'éducation à l'image qui existent pour rapprocher les élèves de différents âges du cinéma. Et donc vous, Christophe Codéran, vous êtes le coordinateur pour la région Pays de Loire du dispositif qui s'appelle Lycéens et Apprentis au cinéma et qui touche, comme son nom l'indique, les lycéens et les apprentis. Alors, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous expliquer le fonctionnement, le principe de ce dispositif conjoint entre l'éducation nationale et le Centre national du cinéma ?
Bien sûr, donc Lycéens et Apprentis au cinéma, c'est fonde sur le volontariat des enseignants qui inscrivent leur classe, avec l'idée d'emmener les jeunes voir 3 films dans l'année dans des salles de cinéma. Donc c'est à la fois amener le jeune public dans les salles de cinéma et aussi les amener à voir des films qu'ils n'auraient pas forcément eu l'occasion de voir par eux-mêmes.
Parce que justement, ce ne sont pas n'importe quel film, c'est des films que vous suggérez.
Ce sont des films qui sont choisis au niveau national, qui rentrent dans une liste qui en contient à peu près 90 aujourd'hui. Des films de toute cinématographie, de toutes les époques, de toutes les origines, tous les genres. Et parmi cette liste, en région, on fait un choix. Nous, on en sélectionne 5 pour donner un choix aux professeurs qui eux-mêmes, après, vont en retenir 3
Ils emmèneront leur classe
voilà, en salle de cinéma.
En salle de cinéma. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est que l'idée, c'est d'aller voir ces films sur grand écran.
Absolument.
Et parmi les films, par exemple, de cette année, on a des titres aussi variés que le documentaire Nostalgie de la lumière, qui date de 2010, il me semble, de Patricio Guzman, mais aussi le western Johnny Guitar de Nicolas Ray, 1953-56, peut-être. Des films peut-être encore plus contemporains avec Petit Paysan qui est
Petit Paysan qui a d'ailleurs eu une histoire, une grande proximité avec le festival puisque le scénario avait été lu ici, que Hubert Charvel a participé aux ateliers d'Angers. Donc c'est un film très récent qui a été choisi massivement, on va dire, par les enseignants.
D'accord.
Et le cinquième, c'est La jeune fille sans main, un film d'animation de Sébastien Lodenbach.
Alors, on retourne à l'école parce qu'après 3, il y a 4. Et le cinquième film, c'était Soyez sympa, rembobiné de Michel Gondry.
Absolument.
Voilà. Et donc, les enseignants avaient le choix de prendre 3 de ces 5 films qui étaient proposés. Et ensuite, en quoi ça consiste ce dispositif ?
Eh bien, ça consiste à éveiller le regard des jeunes sur des cinématographies qu'ils ne connaissent pas, élargir un peu leur regard et leur connaissance du cinéma. Donc, les professeurs, généralement, préparent la séance, à moins qu'ils fassent le choix de laisser les jeunes complètement vierges avant de rencontrer l'œuvre. Et ensuite, ils font un travail avec eux d'analyse, de recontextualisation, travail sur l'auteur. Et nous, ce que l'on apporte en plus, ce sont des rencontres avec des professionnels de l'image, souvent des techniciens, réalisateurs, chefs opérateurs, ingénieurs du son, monteurs, pour leur faire découvrir les métiers du cinéma.
Donc en fait, l'idée derrière l'éducation à l'image, c'est non seulement de voir un film en salle, mais surtout d'essayer de l'analyser, de comprendre comment il a été réalisé, quels sont en fait les moyens de cinéma mobilisés pour faire passer un propos, un discours que peut avoir le réalisateur du film. En quelques chiffres, ça concerne combien d'élèves cette année à peu près, lycéens et apprentis au cinéma ?
Cette année, c'est à peu près 120 établissements, près de 18 000 lycéens et apprentis. Ça oscille selon les années entre 18 000 et 20 000. Un partenariat avec 45 salles de cinéma réparties sur l'ensemble du territoire régional.
Donc il n'y a pas besoin d'appartenir à une des grandes métropoles des Pays de Loire, en fait.
Non, pas du tout. Puis en Pays de la Loire, on a la chance d'avoir un réseau de salles de cinéma très, très étendu dans des petites communes, et ce qui permet aux lycéens, notamment les lycées agricoles qui peuvent être installés dans des communes plus petites, d'avoir accès au dispositif.
D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette année, il y a donc cette journée spéciale mercredi autour des dispositifs d'éducation à l'image proposés en milieu éducatif. Mais c'est quand même une des fibres importantes du festival Premier Plan, parce qu'il y a non seulement dans le propos du festival la découverte de jeunes réalisateurs, et c'est pour ça qu'il y a la compétition de premiers films européens, français, d'école, court-métrage, long-métrage, mais il y a aussi tout un axe de transmission du cinéma et d'éducation à l'image qui relève d'une part des rétrospectives, donc de Pardon, Tom Moore cette année, et puis justement de tout un tas d'actions à destination du jeune public, mais pas que, pour parler du cinéma. Donc on a les lectures de scénarios, les séances qui vont mélanger à la fois lecture et puis visionnage du film correspondant. Et puis cette journée de mercredi qui rassemble le Centre National du Cinéma, les intervenants des dispositifs, donc il y a École au cinéma pour les primaires, grande section de maternelle et primaire, puis collège au cinéma pour les collégiens et lycéens et apprentis au cinéma. Et du coup, est-ce que vous pourriez revenir justement sur les objectifs, le déroulé de cette journée ? Il y a donc une grande conférence, en fait, entre 13h30 et 15h30, dans laquelle vous intervenez ?
Eh bien, l'objectif, c'est de faire connaître déjà les dispositifs, peut-être davantage auprès des professeurs d'école et de collège, et de les sensibiliser, faire des rencontres avec des professeurs qui participent déjà, qui partagent leurs expériences, qu'ils fassent comprendre à leurs collègues l'intérêt de cette démarche d'éducation à l'image avec leurs élèves. C'est une journée à la fois de rencontres, d'échanges et de partage autour de l'éducation à l'image.
Et donc c'est une journée qui est ouverte au grand public si des parents s'intéressent justement à cette thématique. Alors il y a aussi autre chose peut-être dans l'éducation à l'image et dans votre dispositif, parce qu'on parle donc des lycéens et des apprentis. Ce sont des jeunes qui sont à un âge où ils décident de leur avenir professionnel. Et le cinéma, ce n'est pas que des films, c'est aussi tout un réseau de gens qui font du cinéma, donc à la fois évidemment les créateurs, mais aussi un milieu des techniciens du cinéma. Et c'est en fait tous ces gens, tous ces professionnels du cinéma que met en réseau une association qui s'appelle La Plateforme et dont vous faites partie du bureau.
Tout à fait. Donc La Plateforme, c'est une fédération de professionnels du cinéma, de toute la filière, hein, de la fabrication jusqu'à la diffusion. C'est une association qui s'est créée en 2013, qui compte aujourd'hui 300 adhérents et qui s'est structurée en bureaux. Bureau des producteurs, bureau des auteurs, des techniciens, des comédiens, des musiciens qui se retrouvent, qui échangent sur les expériences et qui essayent de faire émerger leurs besoins propres en termes de professionnalisation, en termes de développement d'activité. Et la plateforme a mis en place cette année 74 actions en 2019 contre une quarantaine en 2018. Donc c'est une association qui prend de la force et de l'envergure et qui met en place des événements assez importants comme Extranimation, qui est une rencontre autour du cinéma d'animation qui a eu sa deuxième édition cette année à Nantes au mois de fin novembre. La reprise des étoiles de la SCAM en partenariat avec le lieu unique à Nantes. La grande tournée qui va entamer sa deuxième édition. Là, il s'agit de films produits ou réalisés en région qui ont été identifiés par un comité de sélection et qui vont être diffusés dans les salles volontaires de la région.
Et accompagnés probablement et par leurs réalisateurs.
Absolument, puisque c'est objectif que toutes les séances soient accompagnées par les réalisateurs ou d'autres personnes ayant participé à la production du film. Et puis une autre action assez importante qui est le parcours d'auteur, une résidence d'auteur qui en est à sa deuxième édition aussi cette année et qui regroupe 10 auteurs.
D'accord, donc c'est à la fois la plateforme, l'ambition de faire émerger une notion de région dans tout un réseau, de mettre en réseau des gens qui sont assez proches géographiquement parlant.
Qui ne se connaissent pas tous forcément.
Voilà. Voilà. Et puis l'envie de formation, parce qu'avec ces bureaux par typologie, par grand métier, il y a à la fois c'est des moments de rencontre, mais c'est aussi des moments de formation, de résidence, d'accompagnement à la création.
C'est ça.
Et donc c'est ce qui fait qu'on a un tissu de cinéma extrêmement important. Et surtout éparpillé sur le territoire et pas uniquement présent à Nantes ou à Angers, ce qui en soi.
Qui sont quand même les deux plus grandes villes qui concentrent le plus de personnes. Mais même, on se rend compte que même au sein des grandes villes, on a besoin de mieux identifier, de mieux connaître. Par exemple, Extranimation a permis de se rendre compte et de faire comprendre au public et aux partenaires à quel point le secteur de l'animation était présent en Pays de la Loire avec des studios, des créateurs et ça fait émerger beaucoup de liens, des écoles aussi, l'école Pivot, et donc ce sont ces actions qui permettent de prendre conscience de l'importance de toute cette filière et de son impact sur l'économie de la région.
Bien sûr. Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de tournages en Pays de Loire, à commencer par le tournage du film qui a fait l'ouverture du festival Premier Plan, le film de Stéphane de Moustier, La fille au bracelet, qui a été tourné quasiment intégralement à Nantes, avec une bonne partie de techniciens de la région nantais. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Christophe Codéran.
Je vous en prie, Margot, merci.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
C'était Christophe Codéran pour Radio G. Donc, vous pourrez le retrouver dans le cadre de la conférence L'éducation à l'image fait son cinéma, qui se tient ce mercredi à partir de 13h30 au Centre des Congrès à Angers. Vous écoutez toujours L'Oreille Curieuse sur Radio G et c'est parti pour une petite pause musicale. L'oreille curieuse spéciale premier plan continu avec la rencontre du réalisateur Adrien Mérigeau qui présente son court-métrage d'animation Genus Loki cette année au festival premier plan. Je redonne donc le micro à Margot.
Bonjour Adrien Mérigeau.
Bonjour.
On est vraiment ravis de vous recevoir. En fait, vous êtes présent à premier plan en ce début de semaine pour d'une part présenter les films de Tom Moore, qui est donc la rétrospective animation cette année à premier plan. Et vous avez beaucoup travaillé avec ce réalisateur, on va tout de suite en parler, notamment sur deux films, Le secret de Kells et Le chant de la mer, tous deux nommés aux Oscars. Et vous êtes aussi également présent pour votre premier court-métrage d'animation qui est présenté dans la sélection court-métrage français qu'on peut découvrir dès ce soir, si on veut, à 22h30 au 400 coups.
Oui, absolument, oui, c'est ça.
Alors, Adrien, vous avez vraiment une histoire qui fait rêver parce que, si j'ai bien compris, vous avez commencé par faire un stage d'animation au sein de l'équipe de Tom Moore et puis vous êtes assez vite devenu son directeur artistique. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience ?
Oui, absolument. Alors, je suis arrivé dans le studio d'animation de Tom Moore qu'il a fondé en 1999 ou 2000 en Irlande qui s'appelle Cartoon Saloon. Je suis arrivé en tant que stagiaire juste après mes études, en 2004. Et à l'époque, ils avaient terminé, Nora Toomey était en train de terminer son deuxième court-métrage. Et Tom Moore et d'autres personnes dans son équipe préparaient leur premier long-métrage qui s'appelle donc Le Secret de Kells. Et moi, j'avais déjà très envie de travailler sur papier, dans mes films personnels, dans ma pratique, le dessin et l'aquarelle. Les encres de couleur et puis toute l'esthétique, le grain et les accidents de travail sur papier m'intéressaient le plus. Et au Cartoon Saloon, enfin dans mes recherches d'entreprise pour faire mon stage, le Cartoon Saloon qui préparait Le Secret de Kells travaillait exactement comme ça, avec des compositions qui se rapprochaient un peu du conte, en général des compositions qui sont liées aussi à l'esthétique médiévale, par exemple. Donc, ils utilisent beaucoup de dessins, beaucoup de styles, enfin de graphismes stylisés, et avec beaucoup d'adresse. Et ça m'a beaucoup inspiré. Donc, j'étais ravi d'intégrer leur équipe pour faire un stage. Et j'ai eu la chance que ça soit assez en amont dans la création de leur entreprise. Ils étaient assez peu nombreux et ils accueillaient des talents internationaux à bras ouverts. Du coup, j'ai été intégré à l'équipe avec beaucoup d'amitié et réciproque. Et donc, ça a été super de commencer le travail avec eux comme ça.
Alors, vous parlez du coup du Cartoon Saloon, donc la société fondée par Tom Moore, Nora Toomey, qui est une autre réalisatrice, et Paul Young, qui est plutôt le producteur. Mmh. Est-ce que, pour nos auditeurs, vous pouvez nous expliquer comment ça se passe ? Qu'est-ce que c'est qu'un studio d'animation ? En fait, il y a qui dans un studio d'animation ?
Les studios d'animation, ça s'ouvre assez souvent après l'école. Enfin, c'est souvent des étudiants qui ont une ambition de faire leur propre film et qui ont un peu le courage de... en tout cas, dans le cas de Cartoon Saloon, qui ont le courage d'ouvrir une entreprise à eux. Il y a aussi beaucoup de personnes qui rejoignent une boîte de production avec des producteurs qui les invitent à faire des films, par exemple. Mais dans le cas de Cartoon Saloon, c'était trois amis qui ont fait la même école, qui s'appelle Ballyfermot, à Dublin. Qui voulait partir de Dublin. Je pense que c'était pas facile, Dublin, à l'époque. L'Irlande a eu des problèmes un peu de précarité pendant longtemps, ce qui a un peu changé maintenant avec le Celtic Tiger et tout dans les années 2000. Mais à l'époque, c'était pas facile, Dublin, il me semble. Et donc, ils voulaient revenir dans leur ville, Kilkenny, leur ville d'origine, dans laquelle ils ont grandi et dans laquelle ils ont fait leurs premières expériences cinématographiques à travers des ateliers et à travers des groupes d'amis. Et du coup, ils sont revenus à Kilkenny pour ouvrir tous les trois ce studio.
Alors en fait, du coup, si je comprends bien, en fait, un film d'animation, c'est le fruit d'une équipe extrêmement nombreuse. Alors qu'est-ce que c'est les différents postes, schématiquement, rapidement ?
Alors, en l'occurrence, ils étaient tous les trois artistes, mais il y a Paul Young qui s'est mis à la production assez vite parce qu'il aimait bien organiser des trucs, et puis il était très social. Tom, qui a ce talent de mise en scène incroyable et cette ambition de faire son long métrage depuis ses 18 ans, je crois, donc très tôt, il a continué à travailler, à développer ce projet-là. Et Nora Toomey aussi, qui est une grande réalisatrice, qui a terminé il n'y a pas longtemps à Parvana.
On va découvrir au festival
aussi,
à la fin de la semaine, il me semble.
Voilà, qui est un incroyable film et qui prépare son deuxième long métrage maintenant. À la base, c'était juste ça. Et ensuite, ça s'est alimenté, bien sûr, parce que pour faire un long métrage, il faut une équipe extrêmement conséquente, mais aussi il faut beaucoup d'argent, ce qui amène les réalisateurs à chercher des coproductions dans plusieurs pays, parce que souvent, c'est avec de l'argent public qu'on finance, en Europe en tout cas, les longs métrages, et ce qui amène naturellement à étendre l'équipe du film à travers toute l'Europe. Pour Le Chant de la Mer, on a travaillé avec la Belgique, avec le Danemark, avec la France. Je crois que c'est bon.
C'est
bon,
déjà voilà. Pas mal pour, ouais. En termes de coproduction. Et du coup, en termes de profession, il y a, j'imagine, à la fois les animateurs et puis il y a votre rôle qui était d'être directeur artistique. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots ?
Ouais. Moi, j'ai été le directeur artistique pour Le Chant de la Mer. Donc, j'ai commencé mon travail au Cartoon Saloon sur Le Secret de Kells, où j'ai commencé assez tôt, donc je développais le style avec eux, le style graphique, donc ce qui m'a amené à travailler avec le directeur artistique de l'époque, qui était directeur artistique à l'époque sur Le Secret de Kells, qui s'appelle Ross Stewart, et on développait les décors ensemble, et lui il est resté directeur artistique, et moi j'ai fait chef décor sur le film, parce qu'on était assez nombreux, donc il y a beaucoup de travail à faire, donc on répartit les tâches.
Donc chef décor, ça veut dire que vous dessinez les décors de toutes les scènes différentes?
Alors je faisais des décors références. Et ensuite, il y avait une équipe qui faisait les décors entre, par exemple, quand on arrive dans une salle et qu'il y a un plan très large avec, disons, toute l'église ou tout le village, des trucs comme ça. Moi, je travaillais plutôt sur ces décors-là.
Sur le plan d'ensemble?
Le plan d'ensemble. Et ensuite, quand il y a des plans rapprochés où on est plus sur un personnage et que derrière, il y a une étagère ou quelque chose comme ça. Ça, c'est...
c'est une autre personne qui s'en occupe.
Voilà, on peut le déléguer et économiser du temps comme ça et être plus efficace. Du coup, moi je faisais le chef décor sur Le Secret de Kells. Ensuite, sur Le Chant de la Mer, Ross Stewart, le directeur artistique, voulait se consacrer à sa carrière de peintre. Et Tom, avec qui j'avais l'habitude de travailler, avec qui je m'entends très très bien. D'ailleurs, que je suis ravi de revoir au Festival d'Angers bientôt, quand il arrive demain, je crois, ou mercredi. Donc il m'a proposé de faire la direction artistique du Chant de la Mer.
Donc là, c'est au-delà d'être responsable des décors, c'est responsable de toute l'ambiance visuelle, la tonalité, les couleurs.
Voilà, c'est ça. C'est en fait, on suit avec Tom donc à son script, son histoire. Tom, il dessine, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, lui, il dessine très très bien. Donc c'est déjà une énorme base de travail pour le directeur artistique. Et moi, mon travail, c'était de voir si on allait être plus numérique ou plus argent, enfin plus sur papier, si le style allait être plus naturel ou plus stylisé, ou si ça allait être plus plat, plus profond, et aussi changer les thématiques de couleurs et de formes. En fonction de l'évolution des personnages au niveau de l'émotion du film. C'est d'avoir une cohérence visuelle et aussi une évolution du graphisme dans le film en fonction de l'histoire, du déroulement de l'histoire.
Alors pour conclure sur cette rétrospective Tom Moore, j'ai l'impression qu'il y a quand même un point commun dans ces films, c'est ils sont souvent inspirés de légendes celtes. Et on sent aussi qu'ils sont très inspirés par le territoire, l'Irlande, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce...
Ah oui, absolument. En Irlande, il faut y aller pour s'en rendre compte, mais le folklore et la manière de raconter les histoires et que la culture se transmette d'histoire en histoire et de personne en personne, c'est extrêmement important. Je pense que ça a beaucoup à voir avec une époque aussi où ils avaient un peu un problème avec les Anglais qui les dominaient pas mal et qui essayaient d'étouffer à l'époque la culture irlandaise, et c'était une manière de la préserver, de raconter les histoires. Et il y a ça, et il y a aussi un rapport aux forces de la nature, aux forces mystiques de la nature, parce que la nature, elle est très présente. L'océan, le vent, le froid, la pluie, tout ça. L'eau, c'est beaucoup de choses qui sont assez mystiques. Et du coup, les Irlandais, en général, ils ont un rapport au folklorique et à la mythologie qui est encore très fort. Et à travers la musique, à travers les contes, à travers les chansons, les poèmes et le dessin, c'est des choses qui sont très importantes pour les Irlandais de faire vivre et survivre et de communiquer à la nouvelle génération. Et le travail de Cartoon Saloon, c'est vraiment ça, c'est d'utiliser l'animation pour prendre des histoires mythologiques et les refaire vivre à travers des thématiques qui sont plus modernes.
Alors vous, le vôtre, c'est de faire partager votre passion pour le cinéma de Tom Moore, ce que vous faites déjà très bien à notre micro. Mais vous êtes aussi là à premier plan pour présenter donc votre premier film d'animation en tant que réalisateur. C'est un film de 16 minutes qui s'appelle Genius Loki.
Parfait.
Et qui est présenté dans le programme 1 de la compétition des courts-métrages français. Mm-hmm. Et je vous propose, avant d'en parler, qu'on écoute un extrait d'une petite minute du film.
Tout autour de moi, je trouve le chaos. Il est toujours là. Il change juste d'échelle. On ne peut pas l'arrêter. On peut l'observer. On l'écoute. Il transforme les choses, les gens, les idées. C'est un mouvement. Il est vivant et brillant, comme une sorte de guide.
Hé ! Toi là-bas ! Tu fais quoi là ?
Alors donc c'était un extrait de Genius Loki, le premier film d'animation réalisé par Adrien Mérigeot que nous avons avec nous sur Radio G. Donc là ce qu'on a entendu c'est la voix de Ren, le personnage principal du court-métrage. Alors Ren, c'est une jeune femme qu'on découvre assez vite, probablement un petit peu perdue dans sa vie, très seule en tout cas, et qui va partir pour une sorte d'errance dans la ville. Et on va la suivre pendant ce court-métrage, faire ses rencontres. C'est pas si simple que ça à résumer comme film, parce que c'est beaucoup dans les sensations qu'on ressent. Et on comprend qu'elle fait plusieurs rencontres, qu'il se passe beaucoup de choses et que ça impacte sur elle. Et c'est probablement ça que nous montre le film. Alors c'est un film qui est visuellement magnifique, mais j'aimerais qu'on commence, Adrien, par parler de l'ambiance sonore qui est également extrêmement importante.
Avec plaisir, parce que c'est un rapport très affectif que j'ai avec la musique, parce qu'elle est composée par mes parents, Martine Altenburger au violoncelle et Nine Lekuanin à la percussion. Et donc c'est deux musiciens qui par profession sont font de la musique contemporaine, improvisée ou écrite, et qui ont été donc dans ma vie une influence énorme par rapport à ce que c'est que la musique, parce que la nature de la musique improvisée et contemporaine qu'ils font, c'est d'avoir un rapport sur l'écoute en même temps qu'un rapport sur la musique. Ça a été assez influencé par le compositeur américain John Cage et aussi par mille autres choses, mais une chose qui m'a influencé aussi sur le film, c'est de considérer que les sons qu'on entend, ou les sons qui sont à l'intérieur de nous, en tout cas que les sons qu'on écoute sont déjà de la musique, que la musique elle ne commence ni ne termine, mais c'est l'écoute qui commence et qui se termine. Et donc ce rapport d'affection des choses qui nous entourent ou des choses qui sont à l'intérieur de nous, comme si ça suffisait, c'était quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, beaucoup influencé dans le dessin de mon court-métrage, parce que je voulais avoir un rapport avec ce qui nous entoure dans une ville, enfin un peu le chaos urbain. Comme si c'était un phénomène en mouvement, un phénomène qu'on pouvait observer et dans lequel on pouvait se dire que il y avait une sorte d'observation ou d'écoute qui était assez assez touchante si on prenait le temps d'observer ce qui se passait autour de nous. Donc
c'est vrai que le film me paraît vraiment construit comme un flux ininterrompu, voilà, auquel nous spectateurs on peut ou pas se rapprocher. En fait, ce que j'ai envie de dire aux spectateurs qui, j'espère, iront nombreux voir votre film à 22h30 sur grand écran, c'est qu'il ne faut pas forcément chercher à tout comprendre, il faut d'abord chercher à ressentir et être à l'écoute visuellement et auditivement de ce film.
Voilà, j'étais influencé aussi un peu par l'idée que c'était comme une sorte de méditation. Et la méditation, ce qui m'a beaucoup parlé, c'était que c'était une manière de se connecter à la spiritualité. C'était une sorte de création de la spiritualité, où la prière, c'est un peu pareil. Donc il y a toujours un rapport entre l'abnégation et la contemplation. Et un peu la spiritualité ou le mysticisme. Donc c'est quelque chose que je voulais mettre dans le film un peu, parce que ça parle aussi d'une présence d'un esprit qui lui parle. Donc cette ville qui est en chaos, cette ville la nuit urbaine qui est en mouvement, qui est en chaos, et cette contemplation fait qu'on a l'impression que tout est un peu lié et que ça a une sorte de naissance spirituelle donc qui la guide à travers la ville. Voilà.
Moi, j'ai envie de revenir sur ce qu'on voit, l'image en fait. Enfin, moi, ça m'a vraiment frappé. C'est très beau à voir et c'est très agréable. C'est vraiment ce que j'ai pensé tout de suite. On sent aussi vraiment la présence du dessin. On parlait de papier en début d'entretien, enfin de cette matière-là, des accidents, d'aquarelles. Il y a des effets de transparence, de plans qui vont venir se superposer. Enfin, aussi des codes de représentation qui sont très riches. Et puis des fois, on a des choses très colorées. Et puis d'un coup, on bascule dans une esthétique noir et blanc, très contrastée. Enfin, c'est presque plusieurs films en un film. Et je voulais peut-être vous poser la question de l'usage du cadre aussi. Parce qu'on a le cadre de l'image qui en général au cours d'un film reste le même, mais là on peut avoir des moments peut-être plus carrés où il y a une partie de l'image qui ne va pas être investie par le dessin, d'autres moments où le dessin va prendre toute la place. Enfin, comment ça s'est fait?
D'accord. Alors oui, c'était pour ce film, je voulais que ça soit une narration qui ne soit pas une narration si écrite, mais une narration plus intuitive. Et moi, une grande influence pour ça, ça a été de se baser sur le carnet de croquis. Le carnet de croquis, c'est une démarche qui a une cohérence essentielle, qui a une cohérence, pas parce qu'on y pense, parce qu'on la réfléchit, parce qu'on la fabrique, mais c'est une cohérence parce que c'est une personne qui croque les événements dans une certaine période et qui est dans une certaine démarche. Et donc d'être influencé par ça, ça m'a permis de bouleverser un peu les cadres dans le film et de me dire qu'il y aurait une page où il y aurait juste un petit croquis comme ça à la ligne, la page suivante une grande aquarelle dans laquelle j'aurais passé beaucoup de temps, et l'image encore suivante une petite annotation, et d'arriver à faire une dynamique à l'image, une dynamique visuelle qui était propre à cette déambulation, parce que le carnet croquis aussi c'est une déambulation. Donc c'est pour ça que les styles changent et qu'il y a beaucoup de dynamique, et que c'est aussi en fait une manière d'être distrait. C'est ça que j'avais vraiment envie, qu'on soit distrait par rapport à l'histoire, comme la personnage est distraite dans sa vie.
Et peut se transformer, il y a plein de choses qui lui arrivent inattendues, on la suit quoi.
Moi, j'aurais une dernière question à vous poser sur les nombreuses références visuelles qu'on peut s'amuser en tant que spectateur, et c'est peut-être aussi la place que vous nous donnez à repérer, à noter. Alors peut-être qu'elles sont dues au hasard, mais plus probablement à votre culture picturale. Moi, j'ai eu l'impression de voir des ambiances à la Edward Hopper, d'avoir plutôt des choses, quand vous parlez du carnet de croquis, qui seraient pour moi liées à Delacroix. On peut penser à Picasso, parce qu'à un moment, il y a un taureau. Est-ce que vous vous assumez? Mais en même temps, alors, je tiens juste à vous dire, c'est pas encombrant. C'est-à-dire qu'on peut voir le film sans y penser du tout. Hein.
Moi, j'ai pas énormément de références vraiment directes comme ça. Je pense que c'est... bien sûr, je suis tombé amoureux, comme beaucoup de personnes, de Egon Schiele et de Gustav Klimt, dans leur manière de composer, et la force de leur dessin et l'assurance du dessin. J'ai trouvé ça toujours magnifique. J'ai ensuite vraiment grandi avec le Cartoon Saloon, donc il y avait un rapport au papier et au conte et à l'histoire, à la mythologie que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, non, c'est vraiment la pratique du dessin, je pense, qui m'a amené, et le geste aussi, qui m'a amené à essayer d'analyser ce qui était plus affirmé dans mon dessin, ce qui était un peu moins affirmé et ce qui me parlait plus ou moins. Après, j'ai fait cette rencontre incroyable de Brecht Evans, qui est un illustrateur qui a travaillé sur le film, sur mon court-métrage. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec lui, et qui a une esthétique et une manière de déconstruire l'espace, son espace de dessin. Qui est assez spirituel aussi, parce qu'on voit beaucoup de présence. Il y a des yeux dans le plafond, dans le ciel, dans les bâtiments, et il y a quelque chose qui est toujours en mouvement, et on a l'impression qu'il y a des détails, mais aussi une présence générale qui unifie toutes ces pièces. Donc de travailler avec lui, c'était aussi j'ai beaucoup appris à travers ça. Donc je pense que non, c'est juste le parcours de de quelqu'un dans un milieu de l'animation en l'occurrence, qui a fait que je suis arrivée là. Mais il y a plein de choses en plus du dessin bien sûr qui influencent la pratique.
Je vous remercie vraiment beaucoup Adrien d'avoir commencé à nous en parler et j'invite nos auditeurs à aller voir, à aller découvrir sur grand écran ce film.
Merci beaucoup pour l'interview, merci.
Si vous avez envie de découvrir ce court-métrage donc Janus Loki, réalisé par Adrien Mérigeau, sachez qu'il sera présenté ce soir au cinéma Les 400 Coups à Angers à 22h30. Vous écoutez toujours L'Oreille Curieuse sur Radio G et c'est parti pour une seconde pause musicale. On écoute Malik Djoudi et son titre Tempérament.
Chazine. Ample jean, j'aime la vie, j'aime les gens, tant que mon tempérament se désiste des autres troubles en t'étant. J'hésite, je cherche mes pires. Certains jours, je perds mon temps. Quand mon tempérament seul résiste aux autres.
De retour dans l'oreille curieuse depuis le centre des congrès où se déroule le festival Premier Plan, où nous serons toute la semaine. Nous avions commencé l'émission avec de l'éducation à l'image, puis nous avons parlé de cinéma d'animation. Pour conclure, nous vous proposons un reportage sur un lieu pendant le festival Premier Plan dédié à la découverte et à la pratique de l'animation. Et ce lieu, c'est le studio animation. Voici le reportage de Anouk.
Je suis actuellement en fait sur un des ateliers du festival et en fait j'ai en face de moi une machine plutôt atypique qui ressemble en fait un peu à un atelier bricolage. J'ai des pinces croco, des circuits électriques, tout un tas d'images plastifiées devant moi. Voilà, je sais pas trop quel est le but de cette machine. Ça m'amène à me poser beaucoup de questions et j'aimerais en savoir un peu plus parce que en face de moi je vois quand même qu'il y a des images de projetées et ça semble être des des images qu'on peut créer sur le moment. Donc du coup, je vais demander quelques informations à Emmanuel Gibault, qui du coup est présente sur cet atelier. Donc bonjour Emmanuel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette machine abracadabrante?
Bonjour. Cette machine a été, enfin c'est plus une installation plastique qui a été créée par Nathalie Guimbretière, qui est une artiste angevine aux multiples facettes. Et qui est notamment qui a un fort lien avec la musique et qui avait envie de monter sur scène aux côtés de musiciens et de musiciennes et de créer ses propres images animées en live, un peu à la manière du vidjing, mais en poussant le process un peu plus loin, c'est-à-dire qu'elle ne projette pas des images qu'elle a tournées en amont, mais elle les crée vraiment en direct sur scène. Et c'est cette installation-là qu'elle nous a mise à disposition, qu'elle accompagne de temps à autre. Elle peut être présente pour faire de la médiation autour de cette installation qui s'appelle Motion Fiction.
Alors du coup, je me rends compte que c'est pas la seule chose qui est disponible en fait dans cet atelier. Donc autour de nous, on a d'autres tables qui sont toutes différentes les unes des autres. Et donc du coup, j'aimerais en savoir un peu plus aussi sur les différents ateliers que tu proposes et sur les objectifs de ces ateliers qui sont du coup en lien avec le film d'animation.
Tout à fait, tout est en lien avec le cinéma d'animation et l'idée du lieu, c'est de permettre au public divers et variés et de tous âges, de venir tester différentes pratiques, différentes manières de pratiquer le cinéma d'animation. Donc on peut faire de l'animation de papier découpé avec Motion Fiction, dont on vient de parler, mais on peut aussi faire des ateliers de dessin animé. On a des étudiants de l'École des Beaux-Arts qui nous ont préparé différents supports qu'on peut proposer au public, avec des petits guides pour dessiner, des petits points de départ en fait pour créer un petit dessin animé, qui ensuite on enregistre les photos pour créer un film. On a aussi tout un panel de jeux optiques pour décrire et expliquer à nos publics les débuts du cinéma et du cinéma d'animation.
Donc si je comprends bien, l'idée du coup de cet atelier, c'est de rendre accessible et de faire découvrir au jeune public en fait comment sont créés les films d'animation. Donc si demain voilà, mes enfants ou les enfants de nos auditeurs ont envie du coup de faire découvrir le film d'animation à leurs enfants, où est-ce qu'ils peuvent aller, enfin qu'est-ce que vous proposez, quels sont les temps et les modalités pratiques de cette découverte?
Alors, on leur donne rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi de 17h à 19h, sauf mercredi de 17h30 à 19h, pour venir essayer en entrée libre ces différents espaces et ces différents ateliers. Donc c'est gratuit, il n'y a pas besoin de réserver. Il faut juste venir au centre de congrès, au rez-de-jardin, et vous serez accueillis par nos équipes. Vous pouvez également venir le samedi matin, enfin le samedi 25 au matin, entre 10h et 13h, et puis entre 14h et 15h30 en entrée libre également. Et puis on a un petit temps réservé spécialement dédié aux enfants et aux parents qui assisteront à la projection de Ma vie de courgette en début d'après-midi. Et donc, eux, on leur propose un petit temps d'accueil particulier entre 16h45 et 18h15. Et ce temps-là est sur réservation.
Merci Emmanuel Gibault de nous avoir présenté le studio animation.
C'est la fin de cette première émission spéciale consacrée au festival Premier Plan. Un immense, immense merci à Margot et à Anouk qui ont rendu cette émission possible. Notez que chaque jour, jusqu'à jeudi, vous pourrez assister à un enregistrement d'une de nos émissions de radio. Il suffit de venir au Centre des Congrès entre 15h et 16h. C'est entièrement gratuit. On est dans le hall, il faut monter un petit escalier et vous allez voir notre studio, on est là. Jeudi, nous réaliserons une émission commune avec Radio Campus Angers. Mercredi, l'Oreille Curieuse sera avec l'équipe d'Entre les Pages. Et demain, l'Oreille Curieuse sera de retour en studio avec le Centre Culturel Jean Carmet. Mais vous retrouverez l'équipe de Calibre 58, l'émission qui aime les polars et ambiances inquiétantes, pour un enregistrement toujours de 15h à 16h, toujours au Centre des Congrès. Voici donc pour les infos radiophoniques. Si vous avez raté quelque chose, une info, un détail, une réponse d'un de nos invités, tout est en ligne sur le site de Radio G, www.radio-g.fr, à la page de l'émission L'Oreille Curieuse. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à demain et je vous souhaite d'aller découvrir le cinéma. À demain.
www.radio-g.fr.